Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 23 décembre 2021, en direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monenzero.
On commence avec le sommaire.
L'Éthiopie affirme avoir pris aux rebelles une ville du Tigré, la première avancée territoriale des forces d'Addis Abeba depuis des mois.
En Guinée, l'ex-putschiste d'Addis Camara se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice après son retour à Conakry.
Coronavirus, les États-Unis autorisent un traitement par voie orale. C'est une pilule mise au point par le laboratoire Pfizer.
Un cadeau de Noël pour les étudiants américains. Le président Joe Biden prolonge de 3 mois jusqu'au 1er mai 2022 un moratoire sur la dette scolaire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'élection présidentielle prévue demain, vendredi, en Libye n'aura finalement pas lieu. Ainsi, on a décidé mercredi le Parlement, fragilisant un processus électoral soutenu par la communauté internationale et la survie du gouvernement provisoire. Le Parlement n'a pas fixé de nouvelles dates pour le scrutin, mais la commission électorale a suggéré dans un communiqué qu'il se tienne le 24 janvier si les conditions sont réunies.
Attendu, ce report des élections en Libye intervient dans un contexte de tension entre candidats et factions incapables de s'entendre sur les règles encadrant ce processus engagé l'an dernier sous l'égide de l'ONU. Cette annulation fait en outre courir le risque d'une reprise des hostilités entre le gouvernement de Tripoli et les partisans du maréchal Khalifa Haftar, basé à Benghazi.
Le gouvernement éthiopien a affirmé hier mercredi que ses troupes avaient pris aux rebelles une ville du Tigré. Si l'information se confirme, ce serait alors la première avancée territoriale depuis de nombreux mois au sein de cette région en proie à un sanglant conflit. Bagassikoura.
Hier soir, les Éthiopiens ont eu droit à un de ces communiqués de guerre. Je cite, « Les vaillantes forces de défense éthiopiennes et les forces de sécurité de la région Amhara, après avoir balayé les forces ennemies, ont capturé la ville d'Alamata. » Fin de citation. C'est une annonce du service du gouvernement qui poursuit. Je cite, « Les forces de défense nationale éthiopienne et les forces de sécurité de la région Amhara, qui sont en train de détruire la clique terroriste en fuite, marche sur Abergele. » Fin de citation. Abergele est en référence à un district de la région du Tigré. Cette annonce douche les espoirs de paix après la récente annonce des replis territoriaux des rebelles éthiopiens du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Les rebelles avaient annoncé lundi leur retrait des régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, où les combats s'étaient propagés pour se replier dans leur région et avaient appelé à un cessez-le-feu. Ils n'ont pas commenté dans l'immédiat l'annonce du gouvernement.
L'ex-président tunisien Moncef Marzouki, vivant en France et farouche critique du coup de force de l'actuel chef de l'État Kais Saied, a été condamné en son absence à 4 ans de prison. Son avocate Lamia Kemiri a affirmé que M. Marzouki n'avait reçu aucune convocation en justice et qu'elle ne sait pas pourquoi il a été condamné. Des médias sur place en Tunisie ont affirmé que M. Marzouki a été reconnu coupable d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État à l'étranger et de lui avoir poser un préjudice diplomatique.
Lors d'une manifestation début octobre à Paris, M. Marzouki a appelé le gouvernement français à rejeter tout soutien au chef de l'État tunisien qui a comploté contre la révolution et aboli la constitution. M. Marzouki a multiplié les interventions sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux pour appeler à la destitution d'un homme qu'il qualifie de putschiste et dictateur.
Il est rentré à Conakry hier. L'ancien président de transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice pour faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute. Le point avec Jacques Aristide.
En provenance du Burkina Faso, où il s'était exilé depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2009, Moussa Dadis Camara veut redorer son blason. « Je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice, car personne n'est au-dessus de la loi », a dit l'ex-putschiste aux médias hier. 2009, une page sombre dans l'histoire de la Guinée. Le 28 septembre de cette année-là, des militaires tuent au moins 157 personnes et violent 1 500 femmes dans le stade où sont rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte. Une commission d'enquête de l'ONU a déjà établi les faits. Moussa Dadis Camara dit vouloir encourager la tenue du procès de ces événements pour un ouf de soulagement des familles des victimes, du peuple de Guinée et de la communauté internationale. Là, ce sont ses mots. À son arrivée à l'aéroport de Conakry, Dadis Camara a été accueilli par de nombreux partisans vêtus de t-shirts à son effigie. Ils ont chanté et dansé. La Fédération internationale pour les droits de l'homme et 3 organisations guinéennes de droits humains veulent que son retour débouche sur un procès que les victimes attendent depuis plus de 12 ans.
Double drame à Madagascar, le bilan du naufrage d'un navire au nord-est de l'île est passé mercredi à 64 morts après la découverte de nouveaux corps. Et 2 personnes sont toujours portées disparues après le crash d'un hélicoptère tentant de rejoindre la zone.
Les saisies de cocaïne ont fortement augmenté au Maroc en 2021, représentant au total 1,43 tonnes de poudre blanche selon la Direction générale de la Sûreté nationale, qui a interpellé plus de 100 000 personnes dans le cadre de la lutte anti-drogue. Depuis plusieurs années, la police marocaine multiplie les saisies importantes de cocaïne, les cartels sud-américains se servant du royaume comme d'une plaque tournante vers l'Europe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un nouveau traitement contre le COVID-19 bientôt disponible. La FDA, l'Agence américaine des médicaments, a autorisé en urgence mercredi la pilule contre le COVID-19 du laboratoire Pfizer. Le point avec Abdulrahman Dia.
Selon une responsable de la FDA américaine, cette autorisation fournit un nouvel outil pour combattre le COVID-19 à un moment crucial de la pandémie où émergent de nouveaux variants. Ce médicament antiviral pourra être administré aux patients à haut risque âgés de 12 ans et plus, précise la FDA. Le traitement de Pfizer, commercialisé sous le nom de Paxlovid, consiste en une combinaison de 2 pilules prises 2 fois par jour pendant 5 jours dès le diagnostic et dans les 5 jours après l'apparition des symptômes, indique la FDA. La pilule du laboratoire américain, dont le vaccin contre le COVID-19 est aussi autorisé aux États-Unis, permet de réduire de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à haut risque lorsqu'elle est prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes. C'est ce qu'indiquent les résultats des essais cliniques ayant porté sur plus de 2200 personnes. Pfizer a également annoncé que son traitement antiviral devrait rester efficace contre Omicron. Ce nouveau variant a entraîné une hausse des cas aux États-Unis comme dans de nombreux autres pays à travers le monde.
Politique américaine, le président Joe Biden se dit encore plus motivé à briguer un second mandat si son prédécesseur Donald Trump est candidat. Cela augmenterait les chances que je me présente, a dit le président démocrate de 79 ans, qui s'exprimait lors d'une interview à la chaîne ABC, diffusée mercredi soir. À la question de savoir s'il serait candidat à sa propre réélection, M. Biden a répondu oui. M. Biden, dont le grand âge alimente les spéculations sur ses intentions pour 2024, a déjà fait savoir qu'il prévoyait de se représenter.
Le président américain Joe Biden a annoncé hier dans un communiqué la prolongation pendant 3 mois jusqu'au 1er mai prochain d'un moratoire sur la dette étudiante dont bénéficient 41 millions de personnes. Les détails avec Eric Manilakis.
Les appels se multipliaient ces derniers jours pour une nouvelle prolongation du dispositif qui devait expirer le 31 janvier prochain. Des millions de personnes ayant souscrit des prêts étudiants doivent encore faire face à l'impact de la pandémie et ont besoin de plus de temps avant de reprendre les remboursements, a expliqué le président américain cité dans le communiqué. Joe Biden avait mis en place ce moratoire après son investiture en janvier dernier et l'avait déjà prolongé une première fois. Cette annonce intervient alors que l'agenda social du président démocrate est enlisé. Joe Biden n'arrive pas à rassembler la majorité parlementaire nécessaire pour mettre en place son programme de 1 750 milliards de dollars visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à accélérer la transition énergétique.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, s'est entretenu avec son homologue israélien de la menace constituée par le programme nucléaire iranien et d'autres activités déstabilisatrices de Téhéran au Proche-Orient, a dit mercredi la présidence américaine.
Les États-Unis et Israël ont conclu que l'Iran constitue une grave menace pour la région et la paix et la sécurité internationale et ont réaffirmé leur détermination à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, a fait savoir la Maison-Blanche dans un communiqué.
La Russie entamera en début d'année prochaine avec les États-Unis des discussions sur les garanties de sécurité qu'elle souhaite obtenir de l'Occident, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dans un contexte de tension entre les deux pays à propos de l'Ukraine. Kiev et les puissances occidentales accusent Moscou d'envisager de lancer sous peu une nouvelle offensive contre l'Ukraine.
La Russie nie tout projet d'attaque et assure avoir déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne seulement à des fins défensives, dénonçant ce qu'il considère comme une aide militaire inacceptable apportée par les États-Unis à l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a prévenu mardi qu'il sera contraint de répondre avec fermeté si l'Occident n'abandonne pas sa ligne agressive.
À présent, la minute éco avec Mouamadou Mfa.
Le Mali devrait être le plus grand producteur de coton en Afrique pour la campagne 2021-2022, selon un rapport du département américain de l'agriculture. Selon ce rapport, le pays a semé du coton sur une superficie record de 795 000 hectares, une hausse de 630 000 hectares par rapport à l'année dernière. Les recettes provenant des exportations d'hydrocarbures de l'Algérie ont augmenté de 57% de septembre 2020 à septembre 2021 en raison de la hausse des prix du pétrole, a indiqué mardi le gouverneur de la Banque d'Algérie. La rente pétrolière représente plus de 90% des recettes extérieures du pays. La firme italienne MPS a produit entre 2016 et 2021 plus de 4000 pièces non conformes destinées à l'avionneur américain Boeing, selon un rapport préliminaire rédigé par des procureurs italiens. Les enquêteurs italiens cherchent à déterminer si les pièces défectueuses peuvent menacer la sécurité aérienne des appareils.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est à partir du 9 janvier prochain et la liste des 28 joueurs qui défendront les couleurs du pays hôte, le Cameroun, a été rendue publique ce mercredi. Le sélectionneur Antonio Conceição a fait confiance aux têtes d'affiche comme Eric Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, André Onana, Karl Etoko Ekambi ou encore Zambo Anguissa. Christian Bassogog est aussi présent. On note aussi le retour de Clinton Ndié. L'ancien Marseillais n'est plus appelé en sélection depuis 9 mois. En revanche, pas de Paul, Georges Ntep, Arnaud Djoum et Sacha Boué. Les Lions indomptables affronteront le Burkina Faso en ouverture, puis l'Éthiopie et le Cap-Vert dans le groupe A. Sur le terrain, le National à la Ligue du Caire remporte la Super Coupe d'Afrique des clubs au thème d'un match spectaculaire. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions s'est imposé au tir au but 6-5 face au Raja de Casablanca, tenant du titre en Coupe de la Confédération. Le score était de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Le club Kérote remporte ainsi le 8e titre de son histoire alors qu'il était mené au score jusqu'à la 89e minute. Direction Europe et en Italie, l'Inter de Milan enchaîne contre le Torino. Victoire 1-0 pour le compte de la 19e journée de Serie A. Avec 46 points, la formation de Simone Inzaghi compte 4 longueurs d'avance sur l'AC Milan qui a rebondi après 2 matchs sans succès. Les Rossoneri sont allés battre Empoli 4-2. En revanche, Naples concède une troisième défaite en 4 journées contre Spezia. L'équipe entraînée par Luciano Spalletti est reléguée à 7 points de la tête. 19e journée également en France. Et le Paris Saint-Germain a accroché 1-1 à Lorient contre 13 points sur Nice, deuxième grâce à son succès 2-1 face au Racing Club de Lens. Troisième en hauteur de Nice, l'Olympique de Marseille est tenu en échec à domicile par le stade de Reims, score 1-1 partout. Et puis, en Espagne, privé de nombreux joueurs touchés par le coronavirus, le Real Madrid s'est imposé 2-1 sur la pelouse d'Atlético Bilbao pour le compte de la 21e journée de Liga. Avec 46 points, les Merengues confortent leur première place avec 8 longueurs d'avance sur le FC Séville qui compte un match de moins. Enfin, du basketball pour finir, la NBA. Avec vous Jean Rouget, les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, Boston s'est imposé face à Cleveland, 111-101. Orlando a battu Atlanta, 104-98. Milwaukee a disposé de Houston, 126-106. Oklahoma City est venu à bout. Oklahoma City est venu à bout de Denver, 108-94. Et dans un autre derby californien, les Clippers de Los Angeles ont pris le meilleur sur Sacramento, 105-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les militants du Parti Uni pour le Congo sont dans la liesse, car leur leader, Paulin Makaya, est enfin arrivé à Londres, en Angleterre, où il pourra suivre les soins de santé. Les membres de la société civile profitent de ce dénouement pour demander aux autorités congolaises de laisser les citoyens circuler librement. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'opposant a pu finalement atterrir tranquillement à Londres où il a rejoint son épouse. C'est dans la capitale britannique qu'il suivra les soins de santé appropriés. Au sein de son parti, Unis pour le Congo, les militants jubilent. Georges Goma Fouti est le porte-parole de l'UPC.
Après avoir passé 1100 jours d'emprisonnement illégal et que sa santé commençait à se détériorer, il était de bon aloi que le président de l'UPC aille se faire un bilan des santé. Et aujourd'hui, c'est une liesse nationale. Les Congolais sont contents et en particulier les militants, les sympathisants, et bien sont heureux de constater que cette fois-ci, le pouvoir de Brazzaville, les autorités de Brazzaville ont accepté de lever cette restriction de droits et libertés de leur leader.
C'est depuis 2018 que Paulin Makaya essaie de quitter le pays, mais les autorités l'en empêchent. À la dernière tentative, son passeport congolais lui a été retiré. Il a finalement été reçu par le ministre de la Sécurité et les responsables de la police qui ont consenti à son voyage. Joe Washington Ebina, l'un des leaders de la société civile, est l'une des dernières personnes à avoir rencontré Paulin Makaya avant son voyage.
Donc il n'y a aucune raison qui devrait en principe l'empêcher ou empêcher tout citoyen à sortir du pays. Lors de ma dernière visite chez lui, j'ai constaté un homme affaibli, un homme qui a perdu du poids. Et cela est très difficile à accepter lorsque nous constatons que dans notre pays, certains leaders politiques, aussi bien du pouvoir, voyagent. Ils sont libres d'aller dans des pays qu'ils veulent et quand ils veulent. Donc il n'y a aucune raison à ce que d'autres citoyens qui bénéficient des mêmes droits soit bloqué à l'aéroport, soit bloqué de tout mouvement, cela est incompréhensible. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, le plateau médical est très médiocre.
On a entendu très peu l'opposition soutenir Paulin Makaya dans sa situation. Clément Mirassa, le président de la Fédération de l'opposition congolaise, lui, avait publié un communiqué dans lequel il dénonçait la violation des droits de l'opposant. Aujourd'hui, il se sent soulagé.
Dieu merci pour lui. Et si nous nous targuons d'être une démocratie, il faut que ça se réalise dans les faits. En 2009, on avait dressé une liste qui avait été déposée à l'aéroport avec les noms des personnalités comme Ange-Édouard Pungi, Général Emmanuel Ngolombele, Mathias Nzon, Guy Romain Kifusia, Clément Mirassa et bien d'autres, comme quoi nous n'avions pas le droit de sortir du pays. Et lorsqu'on est opposant et qu'on veut sortir, visiblement franchir la frontière, c'est véritablement un problème. Le pays vit dans une grave crise politique et il faut que cela soit résolu.
Plusieurs opposants affirment que à chaque voyage, c'est le stress, car ils ne sont toujours pas sûrs, disent-ils, à quel moment ils seront interdits de quitter le territoire national. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, les autorités sanitaires ont détruit plus d'un million de vaccins qui ont expiré à Abuja. Le geste du gouvernement vise à rassurer un public méfiant que les vaccins donnés avec une courte durée de conservation ne soient pas utilisés. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Les autorités sanitaires affirment que ces doses de vaccins ont été livrées par des donateurs internationaux juste avant leur date d'expiration, ce qui ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour les distribuer. C'est la première fois que les autorités sanitaires nigérianes annoncent le nombre de doses de vaccins périmées. Le chef de l'Agence nationale des soins de santé primaire, le docteur Faisal Chouaib.
Dans certains cas, nous avions pu utiliser 100% des doses de vaccins à courte durée de validité. Ce n'est pas aussi la première fois que nous recevons des vaccins à courte durée de validité. Nous avions obtenu plus de 2 millions de ces vaccins qui devaient expirer fin novembre 2021. Donc nous avions utilisé plus de 60% de ces vaccins.
Jusqu'à présent, seulement 2% de plus de 200 millions d'habitants du Nigeria ont reçu les 2 doses de vaccins de COVID-19. La vaccination contre le COVID-19 reste un sujet qui divise au Nigeria à cause de nombreuses réticences observées, comme le témoignent certains Nigériens.
C'est qui le gouvernement dans cette affaire? Le gouvernement, c'est nous, le peuple. Personne ne peut s'asseoir dans un bureau et dire que celui qui ne prend pas le vaccin doit être puni. Nous sommes le gouvernement et nous souffrons tous ensemble. Durant cette pandémie, l'année dernière, je sais combien d'amis j'ai perdu et qui ne sont pas morts des suites de COVID-19, mais à cause d'un problème ou un autre.
Les autorités disent qu'elles n'accepteront plus désormais les vaccins dont la date de péremption n'est pas longue. La directrice de l'Agence nationale pour le contrôle de la qualité des produits, Mojisola Adeyeye.
Personne ne va utiliser un vaccin sans la permission de NAFDAC. Nous travaillons nuit et jour pour assurer que les vaccins soient de qualité. Nous sommes l'une des rares agences en Afrique qui effectue des tests sur les vaccins avant l'utilisation.
Le gouvernement nigérian tente de convaincre en vain les Nigériens de la qualité et de l'efficacité des vaccins. C'est pourquoi les autorités ont décidé de montrer publiquement la destruction des vaccins. Le Nigeria, comme nombre de pays africains, a du mal à faire vacciner davantage de personnes. D'autres pays aussi, tels le Malawi, le Soudan du Sud, le Libéria, les Comores et la République démocratique du Congo, ont déjà détruit des vaccins COVID-19 expirés. Cela est attribué à une conséquence des retards dans l'expédition des doses de vaccins, en particulier du vaccin AstraZeneca, ce qui ne donne pas assez de temps de les déployer avant l'expiration. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
La mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali change de commandement. C'est au général autrichien Christian Rineur qu'il revient désormais la charge de diriger cette force au moment où la France poursuit la réorganisation de sa présence militaire dans le Sahel. Mais pour la mission européenne, le Mali reste une priorité. Les précisions d'Abdou Rahmandia.
La mission européenne de formation au Mali est composée d'un millier de soldats de 26 pays. Son rôle, appuyer l'armée malienne en outillant ses hommes de compétences nécessaires pour faire face à la menace djihadiste. Le général de brigade Joshen Dawel, commandant sortant de la mission.
Le plus important c'est pour la mission, ce sont les besoins du Mali, des forces maliennes. J'ai déjà dit il y a 6 mois, il faut écouter et entendre. Et après, en coopération avec les forces maliennes, de trouver une bonne approche, un bon entraînement. Je pense aussi que pendant les derniers 6 mois, on a fait vraiment un progrès pour le futur du Mali.
Le nouveau patron de la force, le général de brigade autrichien Christian Rehner, promet de s'engager dans le respect de la volonté des Maliens.
C'est un grand honneur pour moi de servir dans cette mission. Et je ferai preuve d'un grand respect pour les peuples maliens et les soldats maliens. La mission est très essentielle.
La force européenne annonce qu'elle va étendre sa formation à d'autres pays du Sahel, comme le Burkina Faso et le Niger, mais que le Mali reste au cœur de ses priorités. Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne.
Nous travaillons au profit de la force conjointe du G5, nous faisons de l'entraînement et nous allons également leur délivrer de l'équipement. Dans ce cadre-là, Nous avons des pays prioritaires en dehors du Mali. Hein, je tiens à dire que le Mali reste notre première priorité, sans aucun doute. Nous avons commencé à développer quelques actions de formation et d'entraînement au Burkina Faso, et nous allons aussi démarrer des actions similaires au Niger.
Pendant ce temps, le Mali va bientôt recevoir l'appui d'un millier de soldats tchadiens supplémentaires au sein de la mission des Nations Unies dans ce pays. Une annonce de Bamako qui survient alors que la réorganisation de la présence militaire française est en cours avec la fin programmée de l'opération Barkhane.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Alors que les Américains entrent dans la saison des vacances, la chaîne d'approvisionnement est en proie à des retards dans le transport des marchandises, des ports vers les entrepôts, puis vers les magasins et les consommateurs. Une pénurie de chauffeurs routiers est souvent invoquée comme raison. Comme nous le rapporte Mike O'Sullivan, certains experts chauffeurs voient un autre problème omniprésent, un manque de coordination tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Un récit de Ginny Kapumovila.
Bouchons dans les ports et longue attente dans les entrepôts, une pénurie de 80 000 camionneurs aggrave le problème selon l'American Trucking Association, un groupe professionnel de l'industrie. Autre facteur, les camionneurs ne sont pas déployés efficacement, explique un chercheur universitaire, car ils font en moyenne 6h30 de conduite chaque jour sur les 11 qui leur sont autorisés. David Corel du MIT, Centre de Transport et Logistique, via Skype.
Ils sont constamment sous-utilisés d'environ 40%.
La raison est claire, selon Corel.
Par la façon dont nous planifions conventionnellement nos chauffeurs de camions pour le ramassage et la livraison, puis la façon dont nous les traitons, nous accordons peu de valeur à leur temps.
Un camionneur de Los Angeles nommé Bill, un immigrant chinois qui ne veut utiliser que son prénom, visite le port tous les jours.
En chargement, nous attendons parfois 6 heures à 9 heures. Ouais, parfois c'est très très mauvais.
Est-ce que vous gagnez de l'argent quand vous attendez?
Oh, on perd de l'argent, vous savez, tout le monde perd de l'argent.
Les camionneurs peuvent également faire face à de longues attentes dans les entrepôts. Marianne, un immigrant roumain qui ne veut utiliser que son prénom, est un camionneur long courrier de Chicago.
Parfois, cela dépend de la façon dont ces entreprises sont organisées, de la qualité de la formation de leurs employés, de leur intérêt pour ce que vous faites et du fait que nous devons également gagner de l'argent.
Les camionneurs peuvent gagner beaucoup d'argent, dont beaucoup veulent entrer dans l'industrie, explique le propriétaire d'une école qui forme des mécaniciens de camions. Mais les étudiants doivent décider s'ils sont prêts à entreprendre le travail exigeant. James Zhang, propriétaire de James Dispatch.
Et puis identifier si vous êtes la bonne personne ou une personne pour faire ce genre d'affaires.
L'administration Biden espère combler le déficit en élargissant les programmes d'apprentissage et en formant des vétérans militaires au camionnage. Mais le roulement est élevé et un autre analyste estime qu'il faut se demander pourquoi. Steve Viselli, sociologue à l'Université de Pennsylvanie, via Skype.
Ce que nous avons actuellement aux États-Unis, ce sont environ 3,5 millions d'emplois qui nécessitent un permis de conduire commercial, un CDL. Nous avons environ 10 millions de personnes aux États-Unis qui détiennent cette licence.
Certains d'entre eux exploitent des équipements lourds, tandis que d'autres se sont déplacés vers des industries comme la construction, frustrés par d'inflexibles règles de conduite qui leur disent qu'endormir, par exemple, même s'ils ne trouvent pas d'endroit sûr pour le faire.
Cela m'est arrivé quand j'ai dû m'arrêter à trois endroits différents et que je ne pouvais pas trouver de place de parking après 6 heures du soir.
Marianne dit qu'il aime la vie sur la route, mais entend des plaintes de collègues camionneurs, le sociologue Steve Viselli aussi.
Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de manque de respect. Les conducteurs parlent beaucoup de respect.
Viselli dit que les camionneurs veulent du respect pour leur temps et leur professionnalisme lorsqu'ils transportent des marchandises essentielles à travers le pays.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi au micro. Jean-Roger Billon et Rosine Monezero à la mise en onde Michel Joseph et à la technique Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée.